Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. Alors ce soir, eh bien, j'ai toujours à mes côtés Michel Turcot. Bonsoir Michel.
Bonsoir Eric.
On va évidemment tous ensemble décortiquer, analyser, commenter ce Grand Prix complètement dingue, comme nos confrères de l'équipe l'ont titré ce matin en une, il faut l'apprécier. Il y avait déjà eu des unes avec les victoires de Fabio Quartararo l'an passé, mais ça fait toujours plaisir de retrouver de la moto en une. Donc on va analyser évidemment ce Grand Prix fou fou fou. Et comme invité ce soir, eh bien, on a Thomas Morcellino. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Alors Thomas, vous le connaissez peut-être ou peut-être pas, mais vous avez forcément fait appel à lui à un moment ou un autre quand vous avez commenté l'historique du MotoGP, des victoires, parce que Thomas, vous êtes le Oula, allez-y, je vais vous le laisser.
Statisticien officiel du MotoGP. Ouais.
Voilà, donc c'est vous, monsieur statistique, sur le MotoGP.
Oui.
Vous êtes également consultant statistique pour Canal+,
oui,
c'est ça?
Exactement.
Donc à chaque fois qu'on a une stat, eh bien c'est
bon, grâce en tout cas, à vous. Voilà, en partie grâce à moi, après, bien évidemment, mais oui, oui. Tout à fait.
D'accord. Donc, bon, on va se tutoyer, hein, ça ouais. va être un petit peu plus sympa. Alors, la première question qui est évidente, la stat du week-end, ça serait quoi, Thomas?
Une, ce serait difficile, je dirais plutôt deux. La première, c'est qu'on a eu une course totalement folle où en fait on a un top 15 le plus serré d'histoire, le top 10 le plus serré d'histoire. Et puis bien évidemment, on a deux Français sur le podium, c'était pas arrivé depuis 1954. Et un doublé, bah là c'est historique parce que c'était jamais arrivé dans l'histoire de la catégorie reines.
Et ben voilà, la transition est tout de suite faite. Michel, un doublé historique. L'image de ce Grand Prix, c'est bien évidemment ce podium à la fin de la course MotoGP.
Oui, avec une Marseillaise, une double Marseillaise, on va dire. On a vu nos deux Français donner un peu de la voix, mais c'est Johan qui a initié le mouvement. On sait que Johan, c'est un passionné de musique, donc...
On l'a vu sur le podium.
Il battait la mesure. Et c'est marrant parce qu'en conférence de presse, Fabio disait qu'il était monté sur le podium très ému, les larmes aux yeux. Et puis finalement, c'est Johan qui l'a fait marrer. Puis ils sont marrés tous les deux. Alors je ne sais pas vraiment s'ils chantaient les bonnes paroles.
Ouais. Johan a dit qu'il avait un petit peu de mal, Fabio, au début, mais que finalement, après, il l'a suivi.
Les paroles ne sont pas faciles. Mais bon, je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont chanté. Je crois qu'on ne le saura jamais. Ouais.
Mais bon, c'était quand même une image fort sympathique.
Ouais. C'est vrai. Alors, comme disait Johan, la Marseillaise, elle n'était pas pour lui, elle était pour Fabio. Mais lui, il se retrouve en tête du championnat grâce à ses deux deuxièmes places. Donc, il avait aussi de quoi faire la fête pour lui.
Bon, alors, évidemment, avec cette image du Grand Prix, on va passer tout de suite aux faits marquants de ce Grand Prix. Et évidemment, vous l'attendez tous et nous aussi, Michel, c'est ton analyse sur les courses de Fabio et de Johan. On commence par Fabio, puisque, elle va dire, honneur au vainqueur.
C'est ça, Fabio, c'est le vainqueur. Donc, c'est sa quatrième victoire en MotoGP. L'an dernier, il a gagné les deux premières courses à Jerez, puis il a gagné Barcelone, et ensuite, il avait un petit peu disparu des écrans. On se posait pas mal de questions. Enfin, ceux qui croyaient pas trop en lui se demandaient si on allait le revoir. Il fait un premier Grand Prix, on va pas dire moyen, parce qu'il termine cinquième, mais disons prudent, peut-être un peu timide. On se demande là si, alors que son coéquipier gagne, donc on se posait la question... lundi dernier,
ouais, on en parlait,
cette table, on se demandait est-ce que la victoire de son coéquipier allait l'illuminer le moral. Il a montré que non, c'était pas le cas. Il a parfaitement réagi. Donc il a fait une course assez prudente. C'est vrai que pendant un moment là, il était contrairement au week-end précédent, on l'a vu devant et puis ensuite rétrogradé. Là, il est resté, on va dire, dans le peloton.
Ouais, aux alentours du top 10. Hein, parce que...
ouais, il était 8e, 9e, 8e. Il est resté longtemps 8e. Et puis, à 8 tours de la fin, il a commencé à... Il y a eu un petit incident devant lui entre Mir et Miller. Là, il a gagné deux positions. Il y avait Vinales qui poussait un peu derrière lui. Et là, il est descendu en petit 55 et il a commencé à grappiller des places, il a commencé à doubler. Et à 4 tours de la fin, et bah, il passe Jorge Martin, il prend la tête. Et là, comme avait fait Vinales
oui,
sur la dernière fois,
sur
hein, il profite de, de l'agilité de Sayama dans le sinueux pour bah, prendre cette petite demi-seconde d'avance qui va lui permettre d'éviter d'avoir en retour de la Ducati dans la ligne droite, parce qu'on a tous vu les images.
Indécent, je crois que c'était le commentaire hier au soir, c'était indécent, mais franchement, oui, ça se voyait.
Ça va être démoralisant, surtout de se faire
défoncer, on peut le dire, on va le dire comme ça.
Et en tout cas, voilà, il a réussi bah, à prendre cette petite avance bah, pour se mettre à l'abri de la SPI, enfin, pour que la Ducati ne revienne pas dessus. Et puis voilà, il gagne la course, c'était magnifique. Ouais. Il a préservé ses pneus comme l'avait fait Vinales, il a, enfin voilà, une course super intelligente. Et d'ailleurs, il a dit. Première course, j'ai roulé comme un amateur, comme un rookie sans cerveau. J'ai pas géré mon mapping. Donc, voilà, il a gambergé les trois journées qu'il a dû passer à l'hôtel enfermé tout seul. Il s'est refait la course. Il s'est dit, non, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Donc, avec son équipe, il s'était prévu un petit plan d'attaque pour la course. Et en fait, il a dit, on n'a pas vraiment respecté le plan que je m'étais fixé. Mais j'ai quand même joué avec mon mapping pour économiser, voilà, pour réduire la puissance quand il fallait. Rester dans les aspi, pardon, parce qu'on sait quand on reste dans l'aspi, ben, on économise des carburants, on économise aussi les pneus par la même occasion. Voilà, super
est-ce que, course, est-ce que quelque part aussi un petit peu comme la même physionomie que l'année dernière où on a eu deux courses au même endroit, deux fois Jerez, là deux fois le Qatar, est-ce que ça ne l'a pas aussi aidé à analyser et à préparer cette deuxième course, à votre avis?
Je pense que oui, hein. De toute façon je pense que ça permet d'optimiser tous les réglages, les settings des motos et en plus il y a on peut rajouter les essais qu'il y a eu avant aussi. Donc forcément, là, les motos sont vraiment abouties pour être performantes sur ce circuit-là. Donc oui, je pense que ça a dû l'aider. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que
après,
forcément...
ça a aidé tout le monde. Après, ouais, ça a surtout aidé ceux qui étaient un peu plus en retrait la dernière fois. Enfin, plus ou moins, on a vu les KTM qui ont essayé
Tout le monde n'a pas, voilà. pas fait le
à peu près, ils ont tous fait les mêmes choix de pneus, sauf les KTM qui étaient en difficulté avec le pneu avant la semaine dernière, qui ont opté pour le médium, mais bon, sans grand succès. Mais sinon, bon, ils sont tous. Ça fait quand même. Il y a eu 5 jours de test et il y a eu 3 jours de Grand Prix. Donc là, ils ont quand même fait un peu fait le tour des réglages. Même si les conditions pendant les essais ont été encore compliquées avec beaucoup de vent, du sable sur la piste. Et puis encore toujours ce grand écart en température entre les séances, la première séance de la journée et la deuxième. La première étant en plein après-midi avec des températures de. 40 degrés et le soir on a la moitié de la température donc
Mais je crois qu'en plus là Vinales pour rebondir sur ce que tu disais c'est Vinales gagne 5 secondes je crois par rapport à la course de la semaine dernière et il termine 5e donc on voit qu'il y a une progression entre les deux courses sur
tout le monde a roulé plus vite. Alors c'est vrai que après la première course Zarco notamment disait que personne ne voudrait partir devant à la deuxième parce qu'on a vu qu'il fallait économiser ses pneus et ceux qui étaient partis devant ils s'en fait avoir en fait bah, on a vu Martin qui a quand même gardé un super rythme jusqu'à la fin. Il a fallu vraiment Fabio fasse un effort et que Johan aussi pour cette deuxième place ça fasse un gros effort pour l'obtenir. Donc finalement ça roulait plus vite et ça semble-t-il pas plus consommer les pneus quoi. Ouais.
Moi ce qui m'a surpris aussi dans la course de Fabio c'est la façon dont il s'est imposé aussi avec autorité, parce qu'il a été malmené, il a été chahuté en début de course, notamment par Mir. On l'a vu 2-3 fois, il s'est fait un petit peu chahuté, un petit peu bousculé. Bon, Mir, tu en as parlé, on y reviendra tout à l'heure, Michel, entre Mir et Miller, justement. Mais c'est cette façon-là, on ne l'avait jamais vu aussi comment dire, incisif et tranchant dans ses attaques, Fabio. On a vraiment sur cette course l'impression qu'il a passé un step.
Bah, en tout cas, il a prouvé qu'il avait des nerfs. Et surtout, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on a tout le temps entendu les pilotes Yamaha dire bah, « De toute façon, face au Ducati, on ne peut rien parce que une fois qu'on, soit on s'échappe devant et on peut gagner, soit on se retrouve avec elle en bagarre et puis on se fait redoubler. » Et là, en fait, non, bah, ils ont réussi, enfin Vinales, la première course et lui, la deuxième, quand ils ont décidé de passer devant, ils ont réussi à faire à donner ce coup de rein, justement, pour se mettre à l'abri. Et ça, c'est effectivement, c'est... Il y a du panache, de l'intelligence, du calme, du sens.
Parce que sincèrement, au début, perso, moi, je le voyais mal engagé. Quoi. Quand je l'ai vu 8e, bloqué en plus derrière, parce qu'en plus, il s'est retrouvé bloqué derrière les Ducati officiels. On en reparlera aussi des Ducati. Mais quand on est derrière les Ducati et qu'après, on sait qu'il va falloir se fader la ligne droite, comme on l'a vu sur les images, tu l'as dit, Michel, c'était pas forcément une position simple. Hein.
En fait, il était quand même très confiant parce qu'il avait fait une super FP4. Donc il avait l'air, voilà, il était assez serein, je pense. Et,
il avait déclaré, ça va être la guerre, il a dit.
Ouais, mais en tout cas, ça a été, on aurait dit une course de moto 3.
Hein. De toute façon, vu comment le classement était serré, oui, effectivement, c'est clair. 9 dans le groupe de tête, je crois.
Parce que là, on a un tour par tour, mais en fait, dans chaque tour, ça se doublait, ça se redoublait. On a vu, enfin, on va parler de Johan après, mais quand Johan s'est bagarré avec Rins là, pendant un bon paquet de tours, c'était incroyable. On aurait dit, du moto 3. Quoi.
Quand on est comme ça sur une course, Thomas, on arrive à tout cerner, à anticiper les stats qu'on va vous demander, parce que j'imagine que quand il y a la course Canal ou en régie, ils disent ouais, est-ce qu'il y a ci, il y a ça, la Dorna c'est pareil, comment ça se passe?
Effectivement, non, après on essaie d'être proactif, donc déjà de préparer un peu ce qui peut se passer, et après, la plupart du temps je suis prêt, mais c'est vrai qu'il y a des questions qui peuvent tomber ou des choses improbables. C'est surtout arrivé l'année dernière, où d'un seul coup, tu peux te retrouver en République tchèque avec un Brad Binder qui est rookie et une KTM qui vont gagner. Donc du coup, chercher des stats en rapport à ça. Et Fabio, donc là, quand il a gagné l'année dernière, on était prêts. Enfin voilà, donc il y a pas mal de choses. Mais la plupart du temps, il faut essayer d'être proactif parce qu'une course va tellement vite que le temps que tu recherches la stat, il s'est déjà passé autre chose. Donc,
Alors justement, je te posais des questions, mais on a déjà... Alors je vous rappelle que vous pouvez également poser vos questions, on est en direct, donc vous pouvez poser vos questions à Michel, à Thomas, à notre invité du jour, et ça tombe bien puisqu'on a déjà une question pour toi, Thomas. Quelle est l'importance des stats pour les pilotes, justement? Est-ce qu'ils sont friands? Est-ce qu'ils en demandent? Est-ce qu'ils en tiennent compte? Et comment ils les assimilent, en fait?
Alors, il y a beaucoup de pilotes qui, justement, ne font pas attention aux stats parce qu'ils ne veulent pas se fixer soit d'objectifs qu'ils ne pourraient pas atteindre ou... se mettre martel en tête en course pour battre tel ou tel record. Par contre, c'est plutôt au niveau des ingénieurs ou même des chefs mécaniciens. Ils aiment bien les stats, notamment liées au temps, savoir les performances de pilotes en FP4, notamment ce que tu disais, Michel, savoir quel est celui qui a le meilleur rythme, des choses comme ça. Donc, peu me demandent ce genre de statistiques, mais il y en a quelques-uns qui, effectivement, viennent me démarcher en me disant « Est-ce que tu peux me faire tel ou tel tableur Excel pour savoir qui a le meilleur rythme sur telle ou telle course ?» Donc c'est important plutôt pour le staff qu'il y a derrière les pilotes. Les pilotes essayent de ne pas trop se soucier de ça.
Ouais. En fait tu travailles pour Adorna, tu travailles pour Canal, mais aussi tu travailles pour les teams et les pilotes qui te demandent...
je ne travaille pas pour eux, mais en fait, effectivement...
Je dis travailler, c'est pas de manière officielle, mais ils te sollicitent.
Oui, il y en a qui me sollicitent. Il y a même après c'est autre chose, mais pour préparer le titre de Joël Mire, effectivement, il y a les press officers qui viennent me voir en me disant « Est-ce que tu peux me confirmer tel ou tel stat ?» Parce que on ne va pas dire de bêtises. Voilà. Et puis, ce n'est pas le pilote qui vient me voir parce que le pilote, lui, ne veut pas penser qu'il va potentiellement gagner le titre. Mais oui, il y a pas mal de... C'est ça qui rend le métier intéressant parce que du coup, on a des interactions avec les constructeurs, les teams et ça. Et donc, ça permet aussi de confronter les données que nous, on a, enfin que j'ai et que eux ont et qui permet de...
Michel, Fabio, on peut dire que sa saison est lancée, est bien lancée maintenant, ou est-ce que tu penses qu'il peut y avoir encore, on va dire que c'est un premier examen de passage? On ne va pas évidemment se lancer dans le côté des titres, champion du monde, machin, etc.
On a eu deux courses sur le même circuit et des essais hivernaux
se sont faits sur le même circuit.
Donc pour l'instant, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que Fabio Quartararo et la Yamaha sont performants au Qatar. Voilà.
Question suivante. c'est sûr. Mais voilà. Il faut pas justement partir trop vite s'enflammer. Même si on est derrière nos Français. On va parler de Johan dans quelques instants. Mais c'est forcément une question qu'on peut logiquement se poser.
On en saura plus dans 15 jours. Ouais. Parce que dans 15 jours, on sera à Portimao. Et on sait que l'an dernier, à Portimao, Morbidelli monte sur le podium avec sa Yamaha 2019. Par contre, les trois officiels...
Sont loin. Ils sont 11, 12 et 14, je crois. Ouais.
Donc si Fabio, dans le coup, à Portimao, ça sera un très bon signe. Ça ne voudra pas dire pour autant qu'il sera champion du monde en fin d'année. Mais en tout cas, ça sera... une confirmation de ce bon début de saison.
Bon, Fabio, c'est fait. Maintenant, Johan, deuxième pour la deuxième course, et surtout qui repart du Qatar en tête du championnat du monde.
Pour la première fois, il est leader du championnat MotoGP.
Ouais. Et une course encore fabuleuse, parce que est-ce qu'à ton avis, quand même, il a dit quand même qu'il avait été surpris par Jorge Martin, par le rythme, parce qu'il pensait qu'il n'arriverait pas à partir, sachant que c'était la première fois qu'il partait en pôle, qu'il allait mener, etc. Ouais,
il voulait la gagner, celle-là.
Il voulait la gagner, je pense.
Bon, on a senti à la fin, il est content pour Fabio, parce que c'est un... Johan, c'est un altruiste, il est dans le partage, il est content pour... Il a un côté un peu aussi... dire chauvin, mais un peu cocorico, donc il était content de partager ça avec Fabio, mais on a senti quand même que voilà, il a attendu premier dimanche, il reste derrière Bagnaia.
C'est
Vignales qui passe devant et il n'arrive pas à suivre. Et là, donc là, il s'est dit, je prépare bien mon coup. Et quand Fabio est passé, il s'est dit, ben, je vais suivre. Et en fait, il a buté derrière Martin qui avait vraiment un très, très bon rythme. Et il dit, j'avais gardé de l'énergie pour les derniers tours. Mais j'ai pas, ça a été trop compliqué pour quand j'ai pu passer mon coéquipier. Fabio était devant.
J'ai une question pour toi.
Ça aurait été marrant de voir les deux.
J'ai une question pour toi de la part de Richard Michel qui demande si Johan a mieux géré ses pneus que lors du premier Grand Prix, à ton avis.
Bah, il les avait bien gérés lors du premier Grand Prix. Pour moi, il a fait vraiment deux courses assez similaires. Il est resté derrière à l'aspi pour pas consommer son pneu. Regarder de l'essence aussi.
Puis, comme tu le disais, il y a quand même eu une réponse du berger à la bergère, notamment avec Rins.
Ouais, ouais.
Et puis, il a montré aussi quand même une certaine autorité, voilà. Même s'il n'était pas le mieux armé dans le Sinueux. On le voyait, il y avait un ou deux virages, notamment quand on regardait la caméra à gauche, où il n'arrivait jamais à partir vraiment à l'extérieur pour bien ouvrir son virage. Il était un peu en difficulté.
En même temps, il était super intelligent parce que chaque fois, il a puni Rins dans le bout droit. En lui disant, de toute façon, tu n'y arriveras pas. C'est vrai que l'autre, au bout d'un moment, il a fait un coup au moral.
348, c'est ça la vitesse enregistrée
Je crois que c'est ça ce week-end, oui, je crois que c'est ça. Ouais. Après, bon,
c'est jeune encore. Il
ne faut pas oublier son record de la semaine précédente.
Oui. C'était moins vite cette semaine parce qu'il y avait beaucoup de vent de face. Et du vent de face.
C'est bien. Après, Johan, c'est pareil. Je pense qu'il doit savourer. Il n'est pas dans le même état d'esprit, je pense, que Fabio. On le sent, on l'a vu hier à l'arrivée, plus mesuré, comme tu disais, plus altruiste, plus dans le partage. On en parlait déjà la semaine dernière et on en a encore la confirmation. Pramac, c'est l'équipe qui lui va.
Et puis, ils ne sont pas du tout dans la même phase de leur carrière. Fabio, il est jeune, il arrive en MotoGP, il n'a jamais été champion du monde, il a envie de tout bouffer. Johan, il a déjà deux titres en Moto2, il sait qu'il a, il a 30 ans, il sait qu'il ne reste pas... Il ne reste pas encore 10 ans de carrière, il a envie de profiter du moment. Il rêve toujours d'être champion du monde MotoGP, il croit toujours en lui, je pense. Mais je pense qu'il vit, il a envie de profiter du moment qu'il vit, parce qu'il en a bavé, il revient de loin. Il a pris quand même des risques incroyables quand il a quitté KTM. Il s'est reconstruit l'an dernier quand il a dit « je vais chez Avintia avec une Ducati GP19 ». Tout le monde a dit « mais ce mec-là, il est taré, il avait une KTM d'usine, regardez la KTM, elle gagne tout ». Il a dit, laissez-moi faire. Il s'est reconstruit. Là, il est dans une équipe, tu l'as dit, qui lui convient parfaitement bien. Et en plus, il a le soutien de Dalinia, qu'il apprécie beaucoup. Et l'Ducati officielle, c'est quand même pas ça. Donc, il a quand même une vraie carte à jouer. Alors maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Ducati peut se permettre
de faire gagner
qu'un pilote satellite avec, avec des sponsors qui ne sont pas les mêmes puisse, on ne va pas dire humilier, mais en tout cas devancer régulièrement les pilotes officiels.
La semaine dernière, Bagnaia avait un petit peu fait la balance, mais là, c'est sur ce Grand Prix, c'est en fait, avant de passer sur les flops, on va finir avec les tops de ces 5 faits marquants du Grand Prix, et évidemment, on va pas passer sous silence, c'est la performance de Jorge Martin. Thomas, déjà au niveau des stats, première pole position, parmi les rookies, on a vu qu'il rentrait dans le cercle fermé des rookies qui faisaient leur pole.
Pole, premier Grand Prix, ils sont très peu. Je crois que c'est le deuxième Grand Prix, donc là c'est différent, c'est pas un record, on va dire. Mais parce que Lorenzo a fait mieux, puisque au premier Grand Prix, il était en pole. Mais surtout le podium, c'est vrai qu'il rentre dans un cercle très fermé, puisqu'il termine, c'est le premier rookie à être sur le podium aussi rapidement après Marquez, qui a été sur le podium dès sa première course. Mais il rejoint d'autres pilotes comme Lorenzo aussi, effectivement, qui ont terminé sur le podium de leur première course, Pedrosa. Donc oui, effectivement, ça reste une belle performance. Et encore une fois, ce n'est pas un pilote qu'on attendait. Moi, le premier, ce n'est pas le premier rookie que j'attendais sur le podium dès la deuxième course.
C'est un pilote un peu particulier. Il était champion du monde Moto3, on le rappelle. Mais après, c'est un pilote qui s'est souvent blessé.
Oui, c'est ça.
Et puis blessé avec parfois des erreurs d'inattention ou... C'est vrai qu'il y a des gens qui ont toujours cru en lui et puis des gens qui, dont je fais partie, doutaient un peu de sa capacité à être performant en MotoGP. En fait, c'est marrant parce que le MotoGP, c'est une catégorie qui dévoile un peu du potentiel de garçons qui n'ont pas forcément eu des carrières lisses en Moto 3 ou en Moto 2.
Oui, puis d'autant plus que, enfin, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais la Ducati, elle a toujours été un petit peu cataloguée comme une moto pas forcément facile. Pendant très longtemps, on a dit qu'il y a que Stoner qui pouvait la faire gagner. Bon, Dovizioso a un petit peu mis mal à cette réputation, mais ce n'était pas forcément la moto la plus facile.
Ouais. Après, bon, ça a quand même beaucoup changé. Hein. Et puis, voilà. Les pilotes qui démarrent en MotoGP sur une Yamaha ont parfois du mal à passer à autre chose. En revanche, voilà, on a vu Binder ou Oliveira avec la KTM, qui n'est pas non plus, qui est devenue peut-être plus facile, mais qui n'a pas toujours été. Preuve année des Arco. Voilà, c'est pas gagné d'avance.
Il n'y a plus de vérité absolue sur la machine.
Non, puis le step entre Moto 2 et Moto GP maintenant est peut-être un peu moins élevé qu'à l'époque où l'électronique jouait un rôle important. Là, depuis 2016 et l'arrivée de l'électronique unique, on voit l'arrivée quand même de pas mal de rookies qui performent, à commencer par Zarco. Dès qu'il est arrivé, il menait le premier Grand Prix, puis Fabio. Et c'est vrai que les rookies ont tendance à performer dès leur première course. Et on le voit depuis 2016, je pense que ça joue pas mal.
Bon, alors on en a un peu parlé, mais maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec les deux derniers points marquants de ce week-end de course. Et encore une fois, on va dire dans les moins bons points marquants, c'est, on va mettre dans le même sac les Ducati officiels, les KTM et les Honda. Parce qu'encore une fois, on va dire que c'est encore un rendez-vous manqué pour ces trois marques.
On va parler de flop, là.
Oui, de flop, ouais. On est bien d'accord. Je n'osais pas le dire, finalement, on va dire ça comme ça, ouais.
Non, c'est vrai que les Ducati, on a deux Victoria Yamaha, alors que la moto affiche une vitesse de pointe insolente, sans Johan, ça aurait été compliqué. Et c'est vrai que Miller a encore fait une course décevante. Englué dans le peloton, on le voit pas progresser, il s'accroche avec Mir.
Un peu.
Et à la fin, il finit avec des crampes qui l'empêche de faire mieux que ce qu'il espérait. Et puis Banaya qui rate son départ. Donc,
pourtant, All Shot Device.
Ouais, justement, un petit problème de All Shot Device.
Ouais. Mais c'est quoi? C'est une erreur de casting, selon vous, pour Ducati officiel? Est-ce qu'il n'y avait pas...
Non, une erreur. Encore une fois...
C'est le début de la saison, mais... Voilà.
Après, bon, c'est vrai que Miller... c'est un super mec, mais qui est peut-être un peu surcoté, quoi. Mais depuis des années. Alors c'est vrai que ceux qui, pour en avoir parlé avec Christophe Bourguignon, qui est directeur technique du team LCR et qui l'a vu débuter sur la Honda, il dit, quand tu vois ses datas, il arrive à faire des trucs incroyables. Il est passé du Moto 3 sans passer par le Moto 2. Livio Suppo lui avait fait confiance à ce niveau-là. Apparemment, c'est un super doué, mais c'est vrai qu'il manque toujours un petit truc, quoi. Donc, est-ce que la pression, je pense que la pression chez Ducati dans l'équipe officielle, c'est pas du tout la même que chez Pramac. Et c'est aussi ce qui peut jouer en la faveur de Johan. Quant à Bagnaia, c'est un jeune pilote. L'an dernier, il a fait de belles choses. Il a fait un bon premier Grand Prix. Là, il a un problème au départ, mais bon, il est quand même pas ridicule non plus. Donc,
Honda, par contre, la Berezina continue, quoi. Il est temps que Marquez revienne.
Alors, si Alberto Pucci était là, il ne nous dirait pas ça, mais il nous expliquerait que Paul Espargaro a encore fait une belle course et qu'il ne termine qu'à 5 secondes du vainqueur.
Après, il était mal parti, mais il est bien remonté aussi quand même.
Voilà, il a fait deux grosses erreurs qui lui ont coûté cher. Bon, après, par contre, Nakagami encore hors des points, Marquez encore par terre. Ouais. C'est vrai que c'est pas brillant. Quoi.
Et puis donc, KTM, donc, encore une fois... Il y a
Brad Binder, qui sauve les meubles, qui est en 8e position. Une course silencieuse, entre guillemets, parce qu'avec le début de course d'Olivera en début, on s'est dit que ça allait être lui le fer de lance de chez KTM. Puis il a rétrogradé au classement avec un pari que tu disais tout à l'heure, Michel, sur le pneu médium à l'avant.
Après, la location pneumatique Michelin, elle n'a pas aidé, ni les Honda ni les KTM. Hein, il manque de support à l'avant. Enfin, le pneu médium était. Ils ont opté pour le pneu médium qui s'est pas avéré performant. Et le pneu tendre, trop de mouvement à l'avant sur les entrées de virage, donc les pilotes handicapés. Et c'est vrai qu'on va encore le dire pour la 55e fois, mais on a moins de 9 secondes dans les 15 premiers. Donc si tu
peux même aller plus loin, 19, enfin, 16 secondes, c'était le top 15 la semaine dernière.
Quoi. C'est voilà, 10 secondes sur 22 tours.
C'est rien.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça se joue à tellement peu que c'est.
Et puis, on n'en a pas trop parlé la semaine dernière, mais là, forcément, on est obligé quand même d'en parler. Et malheureusement, en flop, c'est Valentino Rossi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que...
La semaine, le premier Grand Prix du Qatar, 4e sur la grille, 12e à l'arrivée. Grand Prix de Doha, 21e sur la grille, 16e à l'arrivée. Et à la rue, perdu, quoi.
C'est surprenant. Enfin, c'est la plus mauvaise qualification, même temps... non, Thomas enfin,
C'est la plus mauvaise qualification en dehors de toute pénalité. Effectivement, c'est son plus mauvais résultat. Et puis, en termes de résultat à l'arrivée...
Il met pas de points, quoi. C'est en 26 ans de carrière, c'est arrivé 4 fois qu'il marque pas de points à la fin d'une course dont il franchit les lignes d'arrivée.
À chaque fois, c'était dans des circonstances un peu
particulières. Où il avait été pénalisé.
Marquez en Argentine, ou quand il est tombé en Malaisie et qu'il menait la course, justement, et qu'il est reparti pour terminer... Il n'a pas marqué de points.
C'est clairement ça. Alors, il dit, c'est pas ma plus mauvaise course en MotoGP, j'en ai fait des pires avec la Ducati.
Encore une fois, il termine à combien? 14 secondes.
Mais le truc qui est fascinant, c'est qu'il a rien lâché. Il a rien lâché, quoi. Ouais. Il s'est battu. Il termine devant son frère, devant Nakagami. C'est quand même.
C'est vrai.
Mais bon, après, effectivement, donc j'entends déjà. Les questions arrivées, est-ce que c'est la saison de trop?
Bon, on n'en est pas, on n'en est pas là.
Est-ce qu'il a dit qu'il se positionnerait sur la suite de ses carrières à l'été? S'il enchaîne des résultats comme ça, on peut imaginer.
Il a signé pour un.
Oui, il a signé qu'un an. On peut imaginer que s'il continue sur cette lancée, au mois de juin, il va nous annoncer que. Il va faire de la voiture l'année prochaine.
Pas de la Formule 1, un peu vieux, mais bon.
Non, les 24 heures du Mans, le Dakar, des choses comme ça.
Ouais. Bon, merci Michel pour ce débrief. On va passer à notre invité, Thomas. On va un petit peu te cuisiner, on va te mettre sous les feux de la rampe, si l'on peut s'exprimer ainsi. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, tout simplement, c'est comment on décide de devenir statisticien?
En
se levant un matin
Non, pas du tout, en fait. Déjà, tu as un attrait pour les chiffres, bien évidemment. C'est tout ce qui est chiffres en Grand Prix, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis, de fil en aiguille, la Dorna m'a fait confiance. Il y avait déjà un statisticien officiel qui s'appelle Martin Reins, qui a fait ça pendant une vingtaine d'années et qui était sur la fin de sa carrière. Et puis, du coup, la Dorna m'a dit « Est-ce que tu veux qu'on fasse une passation avec lui ?» Et j'ai accepté les yeux fermés. Donc en 2017, je m'occupais plutôt du Moto2, Moto3 sur les statistiques Moto2, Moto3. Il continuait en MotoGP, donc on a fait la passation en 2017. Et puis en 2018, j'ai repris le lead complet sur les statistiques. Et voilà, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Donc après, les statistiques, c'est un mot vague. C'est plutôt des facts, je dirais. C'est pas calculer des chiffres, des temps. Enfin voilà, c'est plutôt des... Quand est-ce qu'on retrouve deux Français sur le podium en catégorie reine? Quand est-ce qu'on retrouve un Sud-Africain vainqueur en catégorie reine? Des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui, des fois, sont très simples, mais des fois, des choses qui sont quand même très subtiles.
Et tu disposes de quoi comme outil pour travailler? Parce que Wikipédia est ton ami.
Oui, de toute façon, tout ce qui est Internet, forcément. Après, tu achètes des vieux bouquins, des bouquins historiques, des vieux résultats, des...
Donc tu construis ta base de données.
Tu récupères le plus de résultats possible parce que historiquement, il y a des résultats qui étaient, notamment pour les qualifications, qui étaient plutôt affichés, écrits à la main sur un arbre dans le paddock. Et donc du coup, tu avais des erreurs de frappe. Le nom était mal orthographié. Donc du coup, tu retrouves des résultats avec des noms qui ne sont pas forcément les bons. Donc tu constitues ta base de données comme ça. Je peux te donner un exemple, par exemple, en 1954, puisqu'on en parlait, Pierre Monneret, et savoir s'il a fait la pole ou pas, c'est quelque chose qui est difficile à savoir, parce que les statistiques sont officiellement enregistrées pour les pole positions depuis 1974. Donc comment savoir si Pierre Monneret a fait la pole à Reims en 1954? Tu vas voir les archives de Motorevue, tu vas essayer de voir si ça a été noté qu'il a fait la pole. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Dates de naissance des pilotes, les dates des grands prix, enfin pas mal de choses.
Et clairement, c'est ton métier en fait.
Oui.
Tu fais rien d'autre à côté. Ton métier.
Il y a effectivement des stats en temps réel à donner des stats avant chaque grand prix et tout ça, mais c'est aussi le travail d'archive. Du coup, comme tu disais, construire la base de données, c'est un travail, tu peux pas le faire en 15 jours. C'est un truc, tous les résultats, tous les entry list, savoir si, encore une fois, je peux donner un exemple, quand il y a eu Afi Sirin qui est arrivé en MotoGP, savoir s'il n'y a pas eu dans l'histoire un Malaisien qui a figuré sur une entry list. S'il n'est pas à l'arrivée, mais est-ce qu'il y a déjà eu un Malaisien en catégorie reine, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui sont pas évidentes, quoi.
Puis parfois, tu peux nous écrire un petit article sur la technique aussi, parce que tu t'es
Ah
intéressé
oui.
à d'autres choses.
Bah oui, après, effectivement, quand je suis sur les Grands Prix, quand on avait la possibilité encore pour l'instant
d'y aller. Actuellement, tu te déplaces plus, évidemment.
Non, pour l'instant, non, mais du coup, j'aime bien me balader sur la pit lane, de prendre des photos, et effectivement, bah, après, c'est plus mon côté geek, on va dire ça. C'est plus l'aspect technique, donc all shot device, tout ce qui est capteur sur les motos, tout ça. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je suis très curieux par rapport à ça aussi.
Alors on a une question d'un de nos internautes qui demande, est-ce qu'il y a des pilotes qui sont très forts aux essais ou durant les tests et qui ne concrétisent jamais? En gros, est-ce que tu as des champions du monde des essais ou des essais libres et qui en course sont jamais présents?
Ah bah, ça c'est une très bonne question. Là, j'en ai pas qui me viennent en tête. On a tendance à dire que Maverick Viñales est souvent un champion du monde des essais hivernaux et qui a du mal à performer en course, mais là, il me fait mentir.
La réponse, je pense.
Après, il y a des pilotes qu'on voit plus. Un pilote comme Rossi, par exemple, il s'est jamais
oui,
illustré
c'est
sur des pole positions, mais voilà,
c'est un pilote du dimanche. Voilà. Voilà.
Un pilote du dimanche, c'est pas péjoratif. Hein, on est
non,
pas
non, bien sûr.
Hein. Un pilote de course.
Ouais. Non, là, pareil, toi, c'est des questions. Après, c'est l'avantage aussi d'être sur les réseaux sociaux, c'est que même quand tu es sur le Grand Prix, tu discutes avec des journalistes, donc ils te donnent des idées en disant ah, tiens, c'est pas mal de se dire ce genre de choses. Bah, là, une question comme celle-ci, tu vois, c'est intéressant. J'avais commencé à l'époque, pour en revenir à ça, à regarder un peu ce que faisait Vinales au premier tour. On a tendance à dire que Vinales, c'est la preuve, hein, il s'entraîne beaucoup au départ. Combien de positions il perd à chaque départ? Et j'avais commencé à faire des statistiques sur ça. Ça faisait quand même assez peur, mais bah, je sais
5,
plus. Je crois
6.
Que c'est non, c'était enfin sur une saison, je crois qu'il perdait une soixantaine de places cumulées au départ, quoi. Donc ce qui est énorme, alors que d'autres justement en gagnent presque autant. Donc c'est des choses intéressantes, mais qui des fois peuvent être péjoratives pour le pilote et qui peuvent être.
Jorge Martin versus Maverick Viñales.
Bon, ben merci Thomas en tout cas de nous avoir éclairé sur ce point important. On va passer à ce qu'on appelle nous le Sunday Race Recap. On va faire un petit focus rapide sur ce qui s'est passé en Moto 3 et en Moto 2. Et durant la saison, on fera également des focus sur les autres championnats qui se dérouleront éventuellement les week-ends de course. Donc en Moto 3, Michel, le premier focus, c'est Pedro Acosta, 16 ans. Là aussi, ça doit être une première. Thomas, parti de la voie des stands.
Ah oui,
qui gagne.
Parti de la voie des stands. En Moto 3, en tout cas, c'est. Oui, c'est une première. Ça, c'est clair. Il y a eu Brad Binder qui est parti dernier sur la grille en 2016 à Jerez, qui avait gagné. Mais là, depuis la voie des stands, oui, c'est une.
Il était en quelle position sur la voie des stands? Parce qu'on a vu. on a des grilles de, oui, on a une grille de départ dans la voie des stands.
Ouais, il n'était pas mal placé, hein, de mémoire.
Non,
il était sur la deuxième ligne.
Ouais, je crois, je ne sais plus. Pas te dire.
Je crois qu'il avait 10 secondes de retard à la fin du premier tour.
Ouais, au premier tour, il avait une dizaine de secondes, tout à fait.
C'est assez incroyable.
Je rebondis quand même avant de passer à l'autre. On a une question qui va te faire sourire, je pense, Thomas. Travailles-tu pour des sociétés de paris en ligne? c'est pas bête, parce que ça, si tu as les chiffres du loto ou de l'Eurovision,
bah oui,
on est preneur aussi. Hein.
Bah après, c'est vrai que là, c'est plus des probabilités. C'est la continuité des statistiques. Mais oui, ça peut être intéressant de définir des tendances par rapport aux pilotes.
Ouais.
Oui, oui. Mais non, pour l'instant, non.
On revient sur le Moto 3. Michel, Lorenzo Felon, c'est compliqué, forcément on s'y attendait. Il faut peut-être attendre les circuits européens, peut-être maintenant.
Oui, bah c'est un début de saison difficile. Après, voilà, on sait que Lorenzo il arrive en Grand Prix sans forcément avoir l'expérience qu'il aurait peut-être pu acquérir en restant une année de plus en Espagne. Après, voilà. Son père a fait le choix de le lancer tout de suite parce que avec le coronavirus, les courses en Espagne, il y en a moins. Autant reprendre tout de suite les circuits.
Ouais.
Donc c'est vrai que bon, après voilà, c'est un pari. Il faut juste espérer que le gamin se décourage pas trop, parce que voilà, il y a des exemples par le passé, des gamins qui dans la hauteur de la marche sont cassés les dents et sont un peu découragés. Quoi.
Après, le problème, c'est qu'on a tendance à le comparer du coup avec les autres rookies qui sont, en tout cas, les deux rookies, Izan Guevara et puis Pedro Acosta, qui sont justement. Donc, c'est sûr, c'est difficile. La comparaison n'est pas forcément évidente. Donc,
bon, après, l'an dernier, enfin, il y a 2 ans, en Rookies Cup, il était pas loin, il était avec eux, hein, dans le groupe. Donc,
il n'y a pas de raison.
Voilà.
D'accord. Et puis, la dernière image de Moto 3, c'est l'altercation Maxi-Alcoba au départ avec cette cascade et ensuite ce combat de boxe. C'est assez surprenant. Ils ont été sanctionnés ou pas, alors finalement
Ouais, voilà. Alors pas pour ce qui s'est passé entre guillemets sur la piste, mais plutôt ce qui s'est passé après. Oui, ils ont été sanctionnés. Ils partiront tous les deux de la pit lane, donc avec un certain délai. Je crois que McPhee hérite de 10 secondes en plus de délai. Et Alcoba, je crois que c'est 5 secondes. Mais. Oui, ils ont été sanctionnés. Bah, après, c'est McPhee, j'ai vu là juste avant l'émission, il s'excuse en disant que sa réaction, c'était une réaction à chaud. Ce qu'on peut comprendre, enfin, voilà, il s'est fait percuter, il tombe. Et donc, sa réaction directe, c'est de s'en prendre à celui.
C'est pour rien.
Ouais. Oui, en plus, voilà. Donc, du coup, c'est de s'en prendre au pilote qui était juste à côté de lui. Mais il s'excuse auprès de ses sponsors, ses fans, tout ça. Donc,
ouais, c'est un bon garçon, McPhee.
Non, bien sûr.
On fait un petit focus, Michel, sur le Moto 2 maintenant, avec Sam Lobs, deuxième pôle consécutif, deuxième victoire consécutive. Est-ce que ça va être l'année Sam Lobs
En tout cas, c'est bien parti. On rappellera que l'an dernier, il avait fait une super saison. Hein. Il s'est blessé en fin d'année. Sinon, il aurait été. Enfin, il s'est battu pour le titre jusqu'à la fin, malgré une blessure en fin de saison. Et qui plus est, il avait raté la première course au Qatar parce qu'il s'était blessé à l'entraînement à l'hiver. Donc là, il est assez étonnant, quoi. Parce que alors, il continue à tomber au warm-up. Donc c'est carrément.
Ça va.
C'est carrément en course. Mais non, il est bien dans le team. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Et on peut y croire, quoi. En tout cas, une petite stat, docteur.
Les deux premières
pôles de victoire en Moto 2.
C'était pas arrivé depuis 2007, hein, sauf erreur, avec Lorenzo.
Est-ce que c'est plutôt de bons présages pour l'auteur de cette...
Cette année-là, Lorenzo...
C'est bon, mais après, tu vois, si tu veux faire des paris en ligne, le dernier, je crois, avoir gagné les deux premières courses, c'était Baldassari, je crois. Et donc Baldassari, c'est pas un bon exemple. Ouais. Donc, si tu veux,
il n'avait pas fait la pole.
Ouais. Non, il n'avait pas fait la pole. Il avait gagné les deux courses, mais encore une fois.
Ouais. Bon, allez, on va te laisser tranquille sur les questions, Thomas, parce qu'on va justement passer à notre rubrique. On vous l'a expliqué la semaine dernière. Vous pourrez poser tout au long de la saison vos questions, soit à Johan Zarco, soit à Fabio Quartararo, par l'intermédiaire de Michel ou d'Alexis Delis, qui nous regarde depuis l'Infalande, le mangeur de Zébu ou de Gnou. Alexis, on te salue. En tout cas, la question de cette semaine pour Johan Zarco, la voici.
Salut à tous. Henri de Saint-Etienne. Salut Johan. Le départ des Ducati était hallucinant. Comment se gère le start device et est-ce que je l'utilise ensuite en course ? Eh bien, le but, en fait, c'est de rabaisser la moto pour éviter que la moto cabre et même ensuite avoir une meilleure aéro sur les rapports en deuxième, troisième. Et je ne veux pas expliquer tout en détail parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut garder pour nous. Mais oui, le but, c'est de rabaisser la moto et on voit, surtout à la sortie du dernier virage, que la moto s'abaisse de l'arrière aussi pour faire la ligne droite parce que ça lui permet d'être plus aérodynamique et donc d'aller toucher les 360. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On a des petites manivelles pour gérer tout ça. Salut!
Voilà donc la réponse de Johan Zarco à vos questions. Donc encore une fois, n'hésitez pas, tout de suite après l'émission, vous pouvez poser vos questions. Soit à Johan, soit à Fabio et Michel ou Alexis, encore une fois, ce seront vos relais pour nos Français. Je pense que la semaine qui va arriver, tu ne vas pas chômer, Michel. Je pense qu'il y aura quand même un paquet de questions. Alors, on a aussi les questions donc, pour After Sunday, donc dans le cadre de cette émission. On a une première question là, qui est quand même beaucoup plus générale. On nous demande si on pense que le Grand Prix de France sera ouvert au public. Donc là, pour l'instant, on a eu l'information durant le Grand Prix du Qatar que le Grand Prix de France était maintenu. Hein. L'organisation de Claude Michi l'a confirmé. Le Grand Prix se tiendra. Après, public ou pas public, je pense que c'est un peu tôt, Michel, hein, de toute façon.
C'est carrément trop tôt. Là, déjà, on a l'annulation, en tout cas, le report des 24 heures moto du Mans qui était prévu dans 15 jours. Parce que ça devait être à huis clos aussi, mais c'est annulé parce que bah, voilà, les hôpitaux sont saturés. Donc, les autorités ne veulent pas prendre de risque d'avoir évacué des gens en cas de blessure sur le circuit, évacuer des pilotes sur l'hôpital. Donc la situation dans d'ici la mi-mai, c'est compliqué de connaître. Hein. Théoriquement, on devrait être confiné jusqu'à fin avril. Et tout devrait, si on en croit notre président, tout devrait aller mieux au mois de mai. Donc, si tel est le cas, on pourra avoir, je pense, un peu de public.
On se rappelle que l'an dernier, il y avait quand même eu du public au Mans. Hein. C'est l'un des rares Grands Prix à avoir accueilli du public. Claude Michel avait vraiment travaillé énormément là-dessus pour faire en sorte d'avoir un minimum de public autour de la piste.
Oui, donc encore une fois, tout dépendra de la situation sanitaire début mai. Quoi.
Alors, on a une autre question, Michel ou Thomas, celui qui veut se lancer. Est-ce que ce podium des deux Français va créer une dynamique et on aura des futurs Français, des futurs pilotes français pour une relève? Alors, on en a parlé la semaine dernière avec le président de la FFM. Hein. Il y a des projets qui sont en cours.
Ce qui est certain, Eric, c'est que si, on le voit, une de l'équipe, moi à midi, j'écoutais le journal sur France Inter, on a parlé de la moto, je n'avais jamais encore entendu parler de la moto. Donc ça veut dire que si les Français performent, que la moto, on la voit sur des médias mainstream, forcément, ça devient plus populaire, ça va prendre une meilleure image, parce qu'on traîne toujours un peu une image pas terrible en France de la moto. Donc forcément, ça peut susciter des vocations.
Bon, et puis, sur le long terme. Moi je l'ai relevé, on a eu aussi un super tweet de la ministre des Sports, hein, Roxana Maracineau, qui a écrit textuellement sur Twitter, je me permets de la reprendre. « Je salue l'incroyable doublé français en MotoGP à Doha Grand Prix. Immense bravo à Fabio Quartararo 20 et à Johan Zarco 1 qui écrivent l'histoire. Quelle fierté pour le sport français de les voir ensemble au sommet. » C'est quand même plutôt sympa. Parce que bon, on aurait pu avoir un truc laconique, félicitations à Johan Zarco et Fabio. Je pense que là, ça fait. Voilà, après, c'est comme tu le dis, c'est à force d'avoir ce genre de situation.
De toute façon, voilà, l'Espagne est devenue ce qu'elle est de par la réussite de ses pilotes. Hein. C'est un tout, quoi. C'est comment ça fonctionne.
Bon, on arrive à la fin de l'émission, messieurs, et on va passer à la partie qui n'est pas forcément la plus simple, parce que la semaine dernière, on vous avait demandé de nous donner vos pronostics, et je peux vous dire, sans trahir un gros secret, que personne n'avait vu Jorge Martin en pôle et sur le podium, donc malheureusement, personne n'a gagné. Il y avait eu, évidemment, nos Français sur le podium, mais là, la physionomie totale du podium, c'était impossible à trouver. Donc, le prochain Grand Prix, ça sera le 18 avril à Portimao. En deux mots, un circuit totalement différent de l'Oseille, très vallonné. On a vu que l'an dernier, pour les Français, on l'a abordé tout à l'heure, ça n'avait pas été simple, notamment pour Fabio et même pour Johan. À quoi on peut s'attendre, Michel? Un renivellement, retour des Suzuki, qu'est-ce qu'on peut...
En même temps, le Grand Prix du Portugal, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était le dernier Grand Prix de la saison 2020. Donc voilà, c'était novembre, on va y aller au mois d'avril. C'est Miguel Oliveira et KTM qui ont gagné l'an dernier.
C'est un cavalier seul impressionnant.
Ouais, voilà, c'était le premier. Est-ce qu'on peut avoir le retour en grâce des KTM? Enfin, le retour en grâce par rapport à leur descente de prestation du Qatar. La Ducati a bien fonctionné puisque Miller était sur le podium.
Zarco 10e l'an dernier, Fabio
14,
ouais, c'est ça, dire 12 dans le
14. Ouais, on avait dit, hein, les Yamaha officiels étaient...
Morbidelli avait performé, mais les
donc,
officiels... Pas facile. Mais après,
en même temps, la Française des Jeux était avec nous. Donc,
Non, mais c'est vrai que l'année dernière, en plus, historiquement, c'était un cas rare parce qu'il y avait trois pilotes satellites sur le podium. C'était pas arrivé depuis 2004, Qatar, justement.
Ah, statistique.
Mais c'est vrai que, tu avais Oliveira de Tech 3, tu avais donc Miller de chez Pramac et puis Morbidelli de chez Petronas. Donc on avait trois marques aux trois premières places. Donc après, comme dit Michel, moi, j'aimerais bien qu'il y ait au moins une KTM qui revienne un peu en bagarre. Et puis l'inconnu, ce sera éventuellement peut-être retour de Marc Marquez. On ne sait pas. Voilà,
on verra.
En tout cas, on le saura le 12 avril.
Ouais, le 12 avril, il passe.
Moi, je pense que même avant, non. On aura peut-être un.
Non, il a une visite médicale. Après, on sait qu'il a été absent. Enfin, il a renoncé aux deux Grands Prix suite à une visite médicale. Alors, est-ce que c'est ses entraînements à répétition à Barcelone et à Portimao qui ont ralenti sa guérison. C'est pareil, les communications chez Honda restent floues.
Oui, et très, très difficile à à analyser et comprendre. En tout cas, merci Thomas
de
nous avoir rejoint ce soir. Merci Michel.
Merci Eric.
Et puis, quant à nous, on se retrouve lundi 19 avril, même endroit, même heure, 19h, donc sur les réseaux sociaux Facebook de Sans Concession, de Motostation, Motojournal et Motorevue. D'ici là, portez-vous bien, protégez-vous et à très vite pour un autre After Sunday.